du conflit israélo-palestinien, ou plutôt de l'occupation de la Palestine par Israël, avec une journée qui a lieu ce dimanche 10 novembre à Mours, organisée par le comité de Romans et de Rome des Collines de la FPS, l'association France-Palestine. Et pour en parler, Bernard Cruffaz, membre du comité de Romans et puis de Drôme Ardèche, est d'accord de répondre à mes questions. Bonjour Bernard.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Alors, on va faire un tour de cette journée, mais peut-être avant de rentrer dans le vif du programme, peut-être un peu d'historique sur la FPS et puis sur le comité de Romans et Drôme des Collines.
Oui, donc rapidement. Donc la FPS, Association France-Palestine Solidarité, est un mouvement qui a été créé en 2000 par la fusion de deux anciennes associations qui étaient en soutien au peuple palestinien. Elle a une centaine de groupes locaux en France. Les groupes locaux sont organisés individuellement. Et ici, nous avons un groupe local qui est le groupe local Ardèche-Drôme. Il regroupe les deux départements. Et les comités, c'est simplement pour pouvoir se rencontrer avec les différents membres parce que les distances sont telles que c'est difficile de se retrouver tous ensemble. Voilà.
Et donc, vous ici, vous êtes assez actif à Romans, et notamment avec l'organisation depuis de nombreuses années de ces journées de soutien à la Palestine. J'imagine que là, avec le contexte actuel, ces journées-là deviennent de plus en plus essentielles et de plus en plus peut-être douloureuses ou difficiles pour vous en tant que membre actif de ce type d'association.
Absolument. Et donc, effectivement, cette journée de solidarité, ce qu'on appelle journée de solidarité, qui pendant longtemps a été une journée et demie d'ailleurs, a lieu depuis 2003. Donc, c'est la 21e édition cette année. 20e, puisqu'il y a une année où il n'y a pas eu. C'est 2020, à cause de la Covid. Mais autrement, voilà. Et donc, c'est devenu vraiment une institution maintenant depuis une quinzaine d'années, douzaine d'années. Ça se passe toujours à Mours-Saint-Eusèbe, à côté de Romans, dans la salle des fêtes. Et on remercie d'ailleurs la municipalité de Mours-Saint-Eusèbe qui met à notre disposition la salle des fêtes, qui est un endroit idéal pour faire une manifestation qui accueille autant de monde.
Et alors, un peu hors micro, en préparant, vous me disiez qu'il y avait entre 200 et 300 personnes à chaque édition. Comment vous faites pour ramener autant de monde? Est-ce que vous sentez que la question de la défense du peuple palestinien touche les gens ici, particulièrement dans la Drôme?
Alors, ça touche les gens, oui, mais disons qu'on a un public fidèle, parce qu'il sait qu'en général, on a toujours le dimanche après-midi, ce qu'on appelle la grande conférence, des grosses pointures, c'est-à-dire des gens qui sont connus sur le plan français. Par exemple, bon, on a eu quand même des gens comme Leïla Chaïd, Dominique Vidal, Sylvain Sipel, pour ceux qui connaissent. Enfin bon, des gens qui sont connus. Et on rassemble beaucoup de personnes qui sont simplement des sympathisants. Ce ne sont pas des adhérents, des sympathisants, mais qui attendent cette journée parce que avec les conférences qu'on fait, ils viennent apprendre quelque chose. Ils viennent se tenir au courant. Et alors, le problème depuis le 7 octobre, depuis plus d'un an maintenant, a ramené du monde. L'année dernière, il y avait beaucoup de monde. Mais disons que nous, on travaille sur le long terme. Je reviens d'ailleurs en début d'émission, vous avez parlé du conflit israélo-palestinien. On n'aime pas le terme conflit, parce qu'un conflit, c'est entre deux partenaires égaux. Ici, ce n'est pas si un conflit, c'est une occupation, c'est un problème colonial. C'est une des dernières colonies dans le monde, et puisque les Palestiniens sont occupés depuis 67, c'est-à-dire 57 ans, si je ne me trompe pas.
Et comment vous, vous êtes retrouvé à militer à la FPS en tant que... Est-ce que c'est une cause qui vous a particulièrement touché dans votre parcours singulier ?
Oui, c'est sûr, parce que effectivement, ce qui m'a déclenché, c'est la connaissance du monde arabe. Je travaillais à EDF dans l'hydraulique et j'ai été amené en 92 à aller faire une mission au Liban pour reconstruire le Liban après la guerre civile qui a duré de 75 à 90. J'ai fait connaissance avec des gens, j'ai beaucoup apprécié, je me suis informé sur cette question et effectivement, quand j'ai été à la retraite, je me suis dit maintenant il faut que tu ailles en Palestine avec mon épouse puisqu'on fait toujours ensemble en principe. On est allé en 2003, en 2004 où on a eu le bonheur, la chance de rencontrer Yasser Arafat dans la Moukata. C'était en mars 2004. Il était enfermé dans la Moukata encore depuis la deuxième intifada et on a été reçus. On était un groupe d'une quinzaine de personnes Et 6 mois avant sa mort, puisqu'il est mort en novembre 2004, en France d'ailleurs, grâce à M. Chirac, qui, à une époque où la politique française vis-à-vis du monde arabe était fondamentalement différente de celle d'aujourd'hui.
Est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez ? Alors j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de... Bon, alors le traitement médiatique en France, ça c'est sûr que c'est problématique, mais est-ce que vous pensez que les personnes sont assez conscientes de ce qui se passe et de à quel point... Parce qu'on voit par exemple à Cray ou à Romans, il y a encore des rassemblements toutes les semaines, des allumages de bougies, des commémorations, des choses comme ça. Mais est-ce que vous pensez que dans l'opinion publique, il y a assez de conscience de à quel point c'est dramatique et à quel point... Israël agit en toute impunité, finalement ?
Mais non, je pense vraiment que non. Je pense que non, il n'y a pas une conscience prise. Alors, quand il y a des événements comme celui d'octobre 2023, c'était déjà le cas en 2014, lorsqu'il y a eu un mois de bombardement sur Gaza. Ça s'était soldé au bout d'un mois par 1200 ou 1300 morts. Donc là, il y a une prise de conscience. Malheureusement, cette prise de conscience, elle est... disons, j'allais dire, sur impulsion, sur, elle n'est pas durable. Le conflit, le problème palestinien, la question palestinienne, ce qu'on appelle la question palestinienne, il dure depuis plus d'un siècle. On peut dire, on peut situer le début à la fin du 19e siècle, à l'époque où Herzl a écrit, a pris conscience que l'antisémitisme ne pouvait pas être vaincu et que donc, si on voulait dépasser l'antisémitisme, il y avait un État pour le peuple juif. Et à l'issue de ça, après il y a des dates, il y a ces 1917 avec la déclaration Balfour, le ministre des Affaires étrangères britannique, qui décide de donner une terre qui ne lui appartient pas à, au peuple juif qui le demandait, qui voulait effectivement son État juif. Et on comprend dans le contexte de l'époque que les Juifs avaient besoin de trouver une sécurité et d'avoir un État. Simplement, cet État, on l'a créé dans un endroit où les gens, dans les pays arabes, il n'y a jamais eu des pogroms ou des choses comme la Shoah. La Shoah, elle s'est faite en Europe. Les pogroms se sont faits en Russie, en Pologne. Dans les pays arabes, les Juifs avaient un statut spécial, c'était des dhimmis. Ils y vivaient entre eux, mais ils n'étaient pas... voilà. Et donc, le problème vient du fait que les puissances impérialistes de l'époque, qui étaient la Grande-Bretagne et la France, hein, les États-Unis étaient encore complètement isolationnistes, ces pays, ces grandes puissances ont donné un pays qui était habité, malgré le mythe qui dit une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'était un mythe parce que les Palestiniens existaient déjà, pas en tant que Palestiniens, il n'y avait pas d'État de Palestine, mais il y avait des Arabes palestiniens sur place et qui tenaient à rester sur place. Et c'est la base part de là. Ensuite, il y a eu la Shoah qui a, j'allais dire, c'est ce qui a permis à l'ONU, nouvellement créée, de partager la Palestine en deux. Et ensuite, une fois qu'il y a eu le plan de partage, les guerres ont commencé et Israël vit en guerre depuis 48, depuis sa création, depuis 47.
Alors, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans toute la problématique, mais quand même, moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Qu'est-ce qui, selon vous... Alors là, c'est bien, parce que vous avez quand même synthétisé le fondement historique de cette problématique qui dure, effectivement, depuis quasiment un siècle. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, avec des gens qui sont nés en Israël, qui sont israéliens, qui n'ont pas connu d'autres terres, des gens qui sont en Palestine et qui sont sous occupation israélienne depuis qu'ils sont nés, qu'est-ce que... Alors, parce qu'il y en a qui parlent de la solution à deux États, il y en a qui parlent que c'est pas possible, que c'est la solution à un seul État, qu'est-ce que vous... C'est quoi votre point de vue, en fait, sur cette situation ?
La première information que je peux donner, c'est le fait que notre mouvement est un mouvement de solidarité avec les Palestiniens pour... rétablir les droits des Palestiniens. On se garde de dire c'est ça ou ça la bonne solution. C'est les Palestiniens qui choisiront eux-mêmes le jour où on les laissera choisir. C'est eux qui choisiront leur solution. Il y en a une solution idéale à l'origine aurait été un État pour tous ses citoyens, mais c'était contradictoire avec le principe de l'État juif, puisque Israël se veut un État juif et démocratique. Les humoristes disent que c'est un État démocratique pour les Juifs et juif pour les Arabes. Voilà.
Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, cet État d'Israël est gouverné par l'extrême droite. C'est ça qu'on oublie, c'est que oui, c'est un État juif, mais c'est un État et un gouvernement d'extrême droite qui n'œuvre pas tant pour les Juifs, finalement.
Absolument. Disons qu'aujourd'hui, la politique de l'État d'Israël d'aujourd'hui est entièrement... C'est une politique suicidaire. C'est suicidaire parce qu'il y a un jour où les soutiens qu'ils ont, et ils ont des soutiens du monde occidental, les États-Unis, le Canada, et l'Australie et l'Europe, bien sûr, ils ont ces soutiens. Et ces soutiens, ils disparaîtront un jour. Le jour où Israël sera un boulet, les soutiens disparaîtront et à ce moment-là, Israël va se retrouver tout seul. Donc, il y a vraiment... Moi, je dis souvent, d'ailleurs, quand on me dit, des journalistes, par exemple, quand on fait des manifestations, « Oui, mais vous êtes pro-palestinien. » Je réponds toujours, je ne suis pas pro-palestinien, je me bats pour le droit international et pour la justice. Mais les Palestiniens, il y a des biens, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, comme ailleurs. Les Israéliens, pareil. J'ai des amis israéliens. J'ai une amie juive convertie, d'ailleurs. Elle s'est convertie au judaïsme, et qui est anticolonialiste, mais par contre... Elle pratique le Shabbat, on appelle ça les observants. Elle pratique le Shabbat et il arrive qu'on fasse le Shabbat avec elle un vendredi soir.
C'est important de rappeler que la FPS se positionne dans une défense des droits d'un peuple à disposer de son d'eux-mêmes quoi et d'être à nouveau sujet politique, ce qu'ils ne sont plus depuis des dizaines d'années.
Notre combat, c'est le droit international, le respect du droit international et que justice soit rendue aux Palestiniens qui habitaient ce territoire, qui en ont été chassés. Et on parle de la Nakba 48, mais la Nakba, elle continue. Aujourd'hui, il continue à bas bruit pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est plus à bas bruit puisque depuis octobre 2023, on cherche à faire partie des Palestiniens. Il y a Gaza, on en parle beaucoup. On parle moins de la Cisjordanie, où il y a déjà, depuis le 7 octobre, plus de 800 morts. Et parce que les Palestiniens en Cisjordanie, quand ils se déplacent sur une route, ils peuvent tomber sur des colons qui ont été armés par le ministre de la Sécurité, Ben-Gvir, et qui ont été armés et qui peuvent se permettre n'importe quoi. Ils seront impunis. Ils peuvent tuer un Palestinien, ils seront impunis.
On parle vraiment d'impunité au niveau totale, institutionnel et au niveau aussi de la manière dont ça se passe.
C'est là où Israël se rend pas compte qu'ils auraient tout intérêt à faire la paix.
Et avant qu'on rentre un peu dans la journée que vous organisez, comment vous avez réagi, vous ? Où est-ce que vous étiez le 7 octobre 2023 et qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là ? Est-ce que vous avez mesuré l'ampleur des dégâts ?
Ben vraiment, c'est une bonne question parce qu'il se trouve qu'on programme de temps en temps des voyages là-bas où on emmène des personnes, des amis. On avait 13 personnes qui devaient partir et ils devaient partir le 16 octobre. Le lundi 16 octobre, ils avaient pris leur billet, on avait tout préparé parce qu'on prépare longtemps en avance. Et comme on a beaucoup d'amis là-bas et qu'on veut voir nos amis avant, on part toujours une semaine avant avec mon épouse. Et on partait le lundi 7 octobre. Le 9 octobre. On avait nos billets d'avion sur Transavia, on avait nos valises qui commençaient à se faire, et le 7 octobre au matin, grande surprise. Alors en fait, le samedi, je n'ai pas réalisé tout de suite, parce qu'on avait encore peu d'informations. On ne savait pas trop ce qui se passait, il se passait quelque chose, on ne savait pas trop. Mais le dimanche matin, je me suis dit, allez, on part quand même. Et puis, évidemment, dans la journée, on a eu plus d'informations, et surtout, tous les vols étaient annulés, donc il n'y avait plus photo, on ne pouvait pas partir. Et par contre, on avait reporté notre voyage au vendredi, parce qu'on ne savait pas encore. Finalement, bon, on n'est pas parti. Et aujourd'hui, alors évidemment, on n'allait pas à Gaza, bien sûr, parce qu'à Gaza, on a eu la chance d'y aller en 2005, parce qu'à l'époque, c'est avant le blocus, avant la prise de contrôle de Gaza par le Hamas, qui a eu lieu en 2007. En 2005, on a eu la chance de pouvoir aller. C'était déjà pas facile, mais en passant par le consulat de France à Jérusalem, on pouvait obtenir l'autorisation. On a passé 3 jours là-bas. On avait des amis là-bas. Et on finance des projets avec le parc, le mouvement agricole. Donc on allait rendre visite aux gens. On a été une fois, mais juste à Gazaville, on ne connaît pas. Par contre, là, tous les voyages qu'on a fait après, c'est uniquement en Cisjordanie. Hein. Puis en Cisjordanie et en Israël. Parce que moi, Israël m'intéresse beaucoup. La vieille ville de Jérusalem, j'adore. J'ai besoin. Et actuellement, notre dernier voyage date de mai 2022. Et ça fera 3 ans, 2025, ça me manque.
Alors on va rentrer un peu dans le programme de cette journée de solidarité pour la Palestine, organisée par la FPS. Ce sera donc ce dimanche 10 novembre à la salle des fêtes de Mours-Saint-Eusèbe à partir de 9h30. Donc ouverture du public à 9h30. Et puis le matin, donc la journée se découpe un peu en trois temps, j'ai l'impression. D'abord le matin, vous avez un temps que vous avez appelé témoignage. De quoi s'agit-il ?
Alors il s'agit du témoignage d'un médecin palestinien qui a été, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il y a beaucoup de médecins français, palestiniens, puis même d'autres pays étrangers, hein, qui ont été, depuis le 7 octobre, dans des hôpitaux de Gaza pour soigner. Ils avaient la possibilité de rentrer. Il y en aurait une qui s'appelle Palmed, qui est dans le nord de la France, qui gère tout ça, tous les problèmes. Et donc, alors, je vais autant vous dire que les informations qu'on a pour le moment, moi, j'ai vu que des lectures et des vidéos, mais sur les conditions dans lesquelles ils soignaient, le manque de médicaments, ils faisaient des amputations sans anesthésie, enfin bon. Et il se trouve que un ami de notre groupe a réussi à contacter un médecin, donc le docteur Hicham El Haraoui, qui viendra témoigner le matin, donc à partir de 10h. C'est à 10h le matin. Il viendra témoigner de son expérience d'avoir été soigné à Gaza. C'est des conditions vraiment... Il y en a d'ailleurs qui ont été tués, il y en a qui ont été faits prisonniers. Enfin, c'est vraiment...
Donc un focus plutôt sur la question humanitaire ou en tout cas de santé. Ouais. Et puis après, après la pause de midi, ce sera plutôt des projections de films sur la vie à Gaza. Donc là, on est plutôt sur la vie, comment se déroule la vie sous l'occupation. Alors, ce sont des films qui ont été choisis comment et par qui, d'où est-ce qu'ils viennent ?
Petit détail déjà, jusqu'à la Covid, jusqu'à 2019, on faisait un repas à midi. C'est-à-dire qu'on préparait un repas, on a eu jusqu'à 220-230 personnes. C'est assez lourd, mais vu qu'on a peu de jeunes qui arrivent, on se contente d'avoir des sandwichs et des pâtisseries orientales pour que les gens qui restent la journée puissent manger un petit quelque chose. Bon. Et alors, les vidéos, ce sont des vidéos, c'est une série qui a été faite qui s'appelle Gaza Stories. Oh, il y en a, c'est tout des trucs qui durent 3 à 4 minutes. Il y en a une vidéo. Plus d'une centaine, qui sont faites par un Palestinien de Gaza, qui s'appelle Iyad Al-Astal, et qui montre Gaza avant le 7 octobre, avec tout ce qui se passait. Il y a des gens qui vivaient des choses. Il y avait une femme qui était styliste, etc. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Donc on va en mettre une dizaine ou une douzaine pour, comment enchaîner, pour montrer que Gaza, vivait malgré le fait du blocus. Le problème, c'était le blocus. Et puis, tous les deux ou trois ans, un bombardement...
Pour donner un peu quelque chose de vivant aussi à comment vivent les gens. Et...
Voilà, comment vivent les gens, voilà, c'est ça.
Et l'après-midi, le temps fort, c'est un temps qui est donc dont vous parliez avant, hein, la conférence, le temps fort à 14h30. Alors là, c'est intéressant parce que vous faites venir un membre du collectif Tzedek sur un thème qui est important, dont on parle peu. C'est le rôle des juifs anticoloniaux ou décoloniaux dans les mouvements de solidarité avec la Palestine. Alors Tzedek, on peut peut-être le rappeler, c'est un collectif de juifs et juives décoloniaux, issus plutôt de l'JFP, en tout cas les plus jeunes de l'JFP.
Ils travaillent ensemble avec le JFP, ils sont totalement en phase. Simplement, c'est une autre génération.
Et donc, du coup, donc là, c'est Jonathan Ruff qui vient du collectif Tzedek et qui est plutôt à Marseille, lui, qui viendra pour cette conférence. Quel est, vous, votre regard sur la place, même si vous n'êtes pas forcément concerné, mais sur le rôle que les Juifs décoloniaux ou anticoloniaux doivent avoir dans ce mouvement de soutien à la Palestine ?
Ben si, en fait, on est très concerné parce qu'il est absolument important que les Juifs que ce soit les Juifs en France ou les anticolonialistes en Israël, parce qu'il y a des Israéliens juifs, anticolonialistes, malheureusement trop peu nombreux pour peser, mais ils existent et on travaille avec eux et on les soutient et on les aide. Hein. Il n'y a, a pas photo là-dessus, hein, parce que c'est d'eux que viendra la solution. Mais aujourd'hui, Israël a tendance, depuis 93-94, depuis Oslo, aller de plus en plus à droite, à l'extrême droite, parce que ça s'explique sur le plan psychologique par le fait de... les politiques juifs élèvent et enseignent la peur pour les Israéliens. C'est-à-dire que les Israéliens, malgré qu'ils ont la 4e ou 5e armée du monde, sont toujours des victimes. D'ailleurs, les Palestiniens, des fois, en rigolant, nous disent « Nous sommes les victimes des victimes ». Parce que les Israéliens sont des victimes. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, alors que le rapport de force est totalement différent, tout de suite, c'est la peur d'être rejeté à la mer. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que les Israéliens sont manipulés. Enfin, sont manipulés. D'abord, tous ceux qui sont nés après 48, ça fait quand même 76 ans, si je ne m'abuse, hein, ils ont connu que ça. Ils ont connu cette éducation avec à la maternelle, à la primaire, à la secondaire, au service militaire. N'oublions pas que les garçons font un service militaire de 3 ans et les filles de 2 ans. Et ça fait partie de l'exercice. Donc tout ça formate les Juifs. Et comme il y a des Palestiniens qui résistent, eh bien, tout de suite, on veut nous mettre dehors, etc., etc.
Donc, un statut de victime. Et je réagis à ce que vous dites. Vous dites que la solution viendra des Juifs, des coloniaux. C'est fort aussi. Ça fait beaucoup de... une forme d'attente, sachant qu'il y a peu de monde qui est dans ce mouvement-là. Pourquoi est-ce que vous dites que la solution viendra de cette force-là en France ?
Nous, de toute façon, on ne peut qu'accompagner. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on n'a pas de solution. Enfin, moi, personnellement, je ne parle pas au nom de l'association. Personnellement, pour moi, l'idéal, ça serait un État pour tous ses citoyens. Voilà. Donc, un seul État. Je ne conçois pas un État juif comme je ne conçois pas la République islamique d'Iran. Une République islamique, c'est complètement aberrant. Et de même, un État juif, c'est complètement aberrant. Surtout quand ça se prétend juif et démocratique. Comment peut-on être juif et démocratique ? Si, ça peut être qu'une chose, c'est en éliminant tous les non-juifs. Et c'est, malheureusement, ce qui est en train... Enfin, c'est ce que met en œuvre le sionisme. Je dis bien le sionisme, hein, parce que anti-sionisme, antisémitisme. Le sionisme, c'est la politique, c'est d'avoir un État juif avec le moins possible... de non-juifs. C'est l'objectif. Et le gouvernement actuel, avec comme premier ministre Netanyahou et des ministres fascistes, on peut le dire, puisque c'est eux-mêmes qui se désignent comme fascistes. Hein. Donc on peut dire des ministres fascistes. C'est l'objectif de profiter de ce désordre et de continuer la guerre et de ne pas arrêter la guerre, parce que justement, ça sert leur besoin d'arriver à l'État juif débarrassé de tout. Les non-juifs.
Et c'est quand même un peu aberrant si on regarde l'histoire. Là, on vient de fêter les 80 ans de la libération en France, avec des commémorations autour de la résistance, tout ça. On peut se demander, et puis surtout des mouvements antifascistes, hein, avec la montée de l'extrême droite et tout ça en France. Puis à Romans, vous êtes particulièrement aussi sujet à des groupes d'ultra-droite, tout ça. Et on se dit, mais comment c'est possible qu'un État, alors oui, il n'est pas laïque, hein, il est juif, un État comme Israël vire à ce point-là à l'extrême droite et avec des gouvernants fascistes?
Ben moi, je considère que c'est lié à justement ce statut de victime. C'est ce statut de victime qui fait que, effectivement, parce que je pense qu'il y a au moins 60-70% des Juifs qui sont ni anticolonialistes, parce que là, ça, c'est peut-être un pour 1000 ou un pour 10 000, et ni des extrémistes religieux ou... Enfin, religieux encore, c'est différent, parce que faut pas mélanger religieux et colonisateurs. Enfin, parce qu'il y a des deux partis religieux, hein, le parti séfarade, le parti ashkénaze. La seule chose qu'ils veulent, c'est que les yeshivas, les écoles juives, soient financées par l'État et que les étudiants des yeshivas soient dispensés des services militaires. Moyennant quoi, ils sont prêts à s'allier à n'importe quel gouvernement. Et comme chacun de ces deux partis ont à peu près en moyenne une dizaine de députés, ça fait 20 députés sur 120, et c'est eux qui font les alliances. Parce qu'Israël a aussi un problème, c'est que c'est un État où c'est la proportionnelle. Pas tout à fait intégrale, parce qu'il y a 3,25%, enfin bon, pour avoir des députés, mais c'est la proportionnelle. Et depuis le début, ce qui fait que même l'époque où il y avait les travaillistes qui avant le gouvernement, de 48 à 77, même pendant cette époque, les travaillistes n'ont jamais eu 61 députés. Ils ont toujours fait des alliances, et ça a fonctionné jusqu'en 77, où là, c'est parti sur le Likoud et sur la droite. Et plus ça va, d'autant plus qu'il y a effectivement les Palestiniens qui ont fait des mouvements de résistance. D'abord, c'était la résistance armée du temps où ils étaient en Cisjordanie, puis après en Jordanie, puis au Liban. C'était des escarmouches parce qu'ils résistaient face à l'occupant. Ils avaient un occupant, ils résistaient face à l'occupant. Ils ont utilisé le terrorisme, il ne faut pas avoir peur de le dire, quand ils détournaient des avions, quand ils ont étudié, quand ils faisaient dans les années 2000 avec les attentats suicides, il ne faut pas avoir peur, c'est du terrorisme. Mais en même temps, ils n'ont pas trouvé. Et après, à partir des années 2005, ils ont carrément utilisé la résistance pacifique. Et ça a été oublié parce que le monde n'a pas appuyé. La résistance pacifique ne peut avoir un effet que s'il y a des soutiens.
Et du coup, si on revient un peu à ce programme-là, ça veut dire que dans cette conférence avec le collectif Tzedek et donc sur la place des Juifs des coloniaux dans les mouvements de solidarité, là, l'idée, ça va être effectivement de se demander quelle place en Israël, mais aussi en France. On parle bien de comment aussi les Juifs sont aujourd'hui instrumentalisés en France, et notamment par l'extrême droite. Mais finalement, est-ce que le gouvernement ne joue pas aussi ce rôle-là en alimentant et l'islamophobie et l'antisémitisme en même temps, ce qui est partiellement dangereux. Et donc du coup, ça va probablement parler de ça, alors de comment en France, quelle place les Juifs peuvent avoir ?
Je crois que le problème vient du fait que, d'abord, le problème n'est pas un problème religieux. Ce n'est pas un problème juif contre musulman ou contre chrétien. Enfin, ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème colonial. Il y a un pays qui a été colonisé et qu'on veut expulser. Et c'est les Palestiniens. Parce que, pareil, Israël tient la position de dire de toute façon, il y a suffisamment de pays arabes tout autour de la Palestine. Nous, on a un seul pays. Les Juifs en ont un seul pays, c'est Israël. Donc, il est normal qu'on ait un pays en entier. C'est-à-dire qu'on va chasser tout le monde. Mais les Palestiniens, ils sont Palestiniens avant d'être Arabes. Avant d'être Arabes, ils sont Palestiniens. Les Palestiniens, ils habitaient en Palestine. Je ne sais pas si ici, les Dromois, on leur dit, écoutez, on va changer la population, on va mettre des gens, et puis vous allez partir en Ardèche. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord pour partir en Ardèche. Et là, c'est le problème. Et aujourd'hui, de toute façon, la résistance pacifique des Palestiniens, elle est qu'on ne partira pas. On nous détruit notre maison, on la reconstruit. De toute façon, on restera. Actuellement, on restera. Bon, il y a déjà plus de 40 000 morts à Gaza et tout, mais on reste. Il y a des gens qui sont restés. Donc, Israël a tout intérêt, depuis des années, à trouver une solution pacifique, mais pacifique avec justice, c'est pas la paix. Parce que, effectivement, faire la paix, c'est facile. Hein. Tous les Israéliens voudraient la paix. Tous les Israéliens veulent la paix. Tout le monde est pour la paix. Mais la paix sans justice, ça n'existe pas. La paix sans le retour des réfugiés, ça n'existe pas. Il y a 7 millions de réfugiés qui vivent au Liban, en Syrie, en Jordanie, qui vivent dans des conditions lamentables. Et donc, la solution, vraiment, c'est une paix juste, c'est-à-dire avec la possibilité de rendre de rendre justice aux Palestiniens.
Une journée donc consacrée à ces thématiques-là, avec une volonté de la fin de l'apartheid et puis la fin de l'occupation en Palestine. Vous attendez du monde pour cette journée dimanche ?
Écoutez, alors le problème c'est qu'on a eu une communication un peu au dernier moment parce qu'on avait un autre invité prévu qui malheureusement n'a pas pu venir. Parce qu'il y avait des problèmes de la SNCF, la ligne TGV qui est coupée. Et il a fallu, pratiquement il y a 10 jours, trouver quelqu'un qui sera très bien d'ailleurs. Hein, mais on avait prévu Salah Hamouri, beaucoup de militants et même de sympathisants connaissent, un avocat franco-palestinien qui vivait à Jérusalem et qui a été en prison, enfin bon, et qui aurait été très bien aussi. Là, le sujet sera totalement différent, mais il est très intéressant. Et je voudrais dire quand même une chose, c'est qu'il faut également poser la question en France vraiment, de ce qu'est le CRIF. Le CRIF, c'est-à-dire le Conseil dit représentatif des Juifs de France. Théo Klein, en 1945, enfin après la guerre, a fondé cet organisme. Théo Klein est un homme humaniste vraiment... Quelqu'un qui est respect, et il a créé ça pour défendre les Juifs en France. C'est petit à petit, ça s'est transformé en un soutien d'Israël. C'est-à-dire, c'est plus la défense des Juifs, c'est la défense d'Israël. Et ça, c'est le début de la fin. C'est-à-dire qu'il y a un amalgame qui est tellement mauvais, à savoir par les positions prises par le CRIF, que... à la limite, ça développe même l'antisémitisme.
Oui, j'allais dire, ça dessert in fine les Juifs de France.
Les Juifs de France, absolument. Ça dessert les Juifs de France et ça conduit à des choses... Enfin et c'est grave. Et puis alors, un autre fait aussi très important, et là, c'est vraiment très important pour l'avenir, c'est la déconstruction de tout le droit international. Moi, j'ai peur. Enfin bon, à mon âge, j'ai plus tellement beaucoup de temps, mais j'ai des petits-enfants qui ont une vingtaine d'années et je me demande dans quel monde ils vont vivre. Il y a la crise climatique, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on détricote tout le droit international. Il n'y a plus de... Enfin, déjà Israël, mais beaucoup d'autres pays. Mais Israël se permet de... disons, de ridiculiser l'ONU, d'empêcher le secrétaire général de l'ONU de l'empêcher comme président persona non grata, en Israël, de démonter l'UNRWA, c'est-à-dire l'Office des réfugiés, en fait, etc. Enfin, de décréter que l'ONU est antisémite. C'est des mots qui ont été dits par le Premier ministre.
Voilà. Je vois encore qu'il va y avoir des lectures de textes sur la paix à 10h et à 14h30, oui. Des lectures de textes qui ont été faites par des militants.
C'est des poésies, c'est des personnes de groupes ici sur Romans qui ont sollicité pour tenir. Donc ça sera un petit peu 10 minutes, un quart d'heure à chaque séquence avant la conférence.
Pour respirer un peu.
Un peu d'espoir.
Merci beaucoup Bernard. Rendez-vous donc ce dimanche 10 novembre à partir de 9h30 à la salle des fêtes de Mours Saint-Eusèbe pour cette journée solidarité Palestine, en espérant qu'il y ait du monde avec vous.
Je pense qu'on a espoir, je pense qu'il y aura du monde, parce qu'effectivement, malgré la difficulté de la communication un peu tardive, je pense qu'on aura quand même beaucoup de monde et que ceux qui nous écoutent viennent faire un tour. Ils ne sont pas obligés de passer toute la journée, mais viennent faire un tour. On les recevra. Alors, il y a également donc présence de plusieurs stands avec des associations qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Hein. Je pense à l'ASTI, je pense à Artisans du Monde, j'en oublie beaucoup, le MRAP, etc. Enfin, toutes des organisations qui ont des valeurs qui sont les mêmes que les nôtres. Et puis, vous trouverez aussi à acheter des broderies fabriquées par des femmes de Ramallah. Des céramiques qui viennent d'Hébron, et puis de l'huile et des... Alors, les dates, on les reçoit dans un mois, hein. Mais vous pourrez prendre prendre date et on vous en retiendra. Voilà, parce que le but aussi, on n'est pas une organisation humanitaire, on est une organisation vraiment politique, mais la politique, c'est justement de permettre aux Palestiniens de montrer ce qu'ils savent faire et de faire permettre du commerce, développer des projets. Les dates, on a aidé à monter le projet des dates dans la vallée du Jourdain, alors que la vallée du Jourdain est une zone C dans laquelle les Palestiniens sont expulsés et n'ont pas rien de droit de faire, ils n'ont pas d'eau. Et on a aidé, et les dates sont des dates palestiniennes. Alors, on a aussi le boycott. Surtout, n'achetez pas des dates de la vallée du Jourdain, parce qu'il y a cet endroit-là qu'on les fait, et qui sont données comme produits d'Israël. Parce que produits d'Israël sont des produits de territoires occupés. Alors, boycott, désinvestissement, sanctions.
Merci Bernard.